Au sommaire des enjeux aujourd'hui, Julie, la France et les pays du Grand Sahel ont-ils trouvé un sens à leur mission ?
Oui, du G5 Sahel. C'est juste avant le sommet qui s'est tenu hier à Pau. Emmanuel Macron avait demandé à ces pays du G5 Sahel, donc le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, de faire la démonstration de leur attachement à l'opération Barkhane, de manifester leur désir d'être ainsi soutenus par la France dans leur lutte contre les djihadistes qui déstabilisent la région depuis plus de 7 ans. C'est donc ce qu'ils ont consenti à exprimer à la fin du sommet d'hier, dans la déclaration commune finale, leur souhait de la poursuite de l'engagement militaire de la France, au-delà donc des accusations d'ingérence ou de néocolonialisme exprimées par leur population. La France a, quant à elle, annoncé qu'elle enverrait 220 hommes supplémentaires dans une région dont je rappelle qu'elle est grande comme l'Europe. Plus de moyens donc, mais les militaires de l'opération Barkhane y voient-ils plus clair sur leur mission, sur leurs objectifs, sur leur ennemi ? Bonjour Alain Antil. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes responsable du programme Afrique subsaharienne à l'IFRI. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Lille et à l'Institut supérieur technique outre-mer, l'ISTOM. Alors Alain Antil, pour rester d'abord sur le volet strictement militaire, hier à Pau, l'heure n'était pas tellement au bilan, au regard rétrospectif sur l'opération Barkhane, déployée depuis 2014. Il s'agissait plutôt de se donner des perspectives, mais on peut le faire rapidement avec vous. Après 18 mois d'opération, quel succès peut-on mettre aujourd'hui dans cette région à l'actif de cette force antiterroriste dans le Sahel ? Est-ce que des chefs djihadistes ont été neutralisés, comme on dit ? Est-ce que des troupes de combattants terroristes, si ce n'est dissoutes, du moins désorganisées ?
Oui, il faut dire que la mission Barkhane, quand elle a été installée en 2014, avait plusieurs objectifs. Le premier était d'éviter la réinstallation de sanctuaires djihadistes. C'est-à-dire que les djihadistes contrôlent de manière pérenne de certaines zones. Et la deuxième mission était de soutenir les armées nationales, notamment pour qu'elles puissent, à leurs frontières, coopérer entre elles. Alors des succès, Barkhane en a eu, continue à en avoir, puisqu'on estime qu'il y a au moins 600 djihadistes qui ont été neutralisés, dont certains cadres du GSIM et même de l'EIGS.
Alors de l'État islamique au Grand Sahara, notamment. Alors on a des bilans opérationnels de l'armée, ils existent. Dans le journal Le Monde hier, un militaire disait « faire du scalp n'a jamais rien réglé ». Pour l'instant, le seul bilan c'est ça, c'est avoir fait du scalp, comme dit ce militaire, c'est avoir neutralisé 600 djihadistes, dont des chefs quand même.
Oui, mais... Évidemment, il faut tout de suite nuancer ce que je viens de dire par le fait que quand on regarde la carte des pays du G5 Sahel, malgré l'opération Barkhane, malgré l'émergence de la force conjointe du G5 Sahel, les violences ont continué à augmenter, surtout depuis 2018. Il y a plus de groupes armés, djihadistes et non djihadistes, qu'en 2014. Ces groupes armés concernent des territoires plus vastes et le nombre de victimes a augmenté ces deux dernières années et le nombre de déplacés aussi. Et ce qui est très inquiétant, c'est que ces trois derniers mois, on assiste à des attaques contre des positions défensives de différentes armées locales. Auparavant, il y a eu des revers des armées nationales, mais c'était surtout des embuscades ou des combats en brousse. Or, ces trois ou quatre derniers mois, on a des djihadistes qui attaquent des positions défensives de ces armées, avec des nombres de victimes qui augmentent. Donc les armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali sont en très grande difficulté. Donc, un des aspects, disons, de contexte de cette réunion. Le deuxième, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est la montée du sentiment anti-français qui est présent dans les opinions publiques, mais aussi parfois relayé au sein des élites, voire chez certains ministres. D'où une demande de clarification de la France.
La France qui semble avoir pris acte d'une critique, notamment c'est celle de l'inefficacité de son déploiement. On a beaucoup dit ici et même récemment encore combien étaient inopérants 4500 hommes dans une zone grande comme l'Europe. Apparemment, il y a un changement de stratégie en vue. Ce ne sont pas les 220 hommes dont Emmanuel Macron a parlé hier, mais c'est vraiment une question stratégique de redéploiement.
Oui. Bon, c'était déjà le cas parce que évidemment les 1500 hommes ne combattent pas partout au Sahel. L'essentiel des opérations de Barkhane, on trouve ces informations assez facilement, se sont concentrés sur le nord du Mali, sur le centre du Mali, sur l'ouest du Niger. Donc ce qui a été décidé hier, c'est qu'il y allait avoir un redéploiement des forces de Barkhane dans la zone dite des trois frontières, aux frontières des trois pays que je viens d'évoquer.
Mali, Niger, Burkina Faso.
Oui. Et un rapprochement des commandements de Barkhane et de la force conjointe du G5 Sahel. Ce qu'on peut lire à travers les lignes, c'est qu'on aura, certainement Barkhane va donner des consignes de plus en plus strictes aux forces conjointes à la force conjointe du G5 Sahel. Donc c'est essentiellement ce qui a été évoqué avec l'envoi de 220 militaires supplémentaires.
Alors est-ce que vous avez l'impression, Alain Antil, que les armées savent un peu mieux où elles vont au Sahel? C'est la question qui se pose, celle du sens d'une mission qui quand même a tout l'air d'un bourbier. Est-ce que la question est abordée frontalement aujourd'hui, histoire de ne pas répéter à chaque fois les mêmes erreurs, celles d'opérations militaires qui n'ont pas été suffisamment pensées en amont, qui ne définissent pas clairement les objectifs poursuivis, qui ne savent même pas parfois quel ennemi au juste ils doivent combattre, exactement ce que les Afghanistan Papers ont révélé ou confirmé récemment au sujet de l'intervention américaine de 2011. Ici, sur la force Barkhane, le chef d'état-major des armées, le général Lecointre, a dit récemment « Aujourd'hui, nous faisons en sorte que le pire soit évité ». Est-ce que depuis, vous avez l'impression que s'est posée la question du sens? Parce que éviter le pire, c'est pas tellement le sens d'une mission militaire.
Oui, bien sûr. Et là, on doit poser clairement la question de manière politique plus que d'établir un bilan de Barkhane en termes militaires. C'est que aujourd'hui la menace au Sahel est bien plus large que la question terroriste. Et même quand on se penche sur l'analyse de ce que c'est que le terrorisme au Sahel, on voit que de plus en plus ce sont des insurrections qui adoptent un manteau djihadiste. On n'est pas au Sahel dans un affrontement global et contre une armée qui avancerait ou qui reculerait, une armée djihadiste qui avancerait et qui reculerait. Mais en fait, on a plein de petits foyers qui s'allument les uns après les autres. Certains s'éteignent parfois. Ce sont des tensions locales qui parfois attirent les djihadistes. C'est-à-dire les djihadistes viennent s'installer dans des zones où il y a des tensions très très fortes entre des communautés et l'État. Et utilise un peu l'absence ou la médiocrité de la présence de l'État dans certaines zones, voire le caractère un peu, agressif de la présence de l'État dans certaines zones pour s'installer. Donc on n'a pas affaire à un front, on a affaire à de multiples micro-conflits qui peuvent devenir ou non djihadistes. C'est pour ça que l'analyse politique me paraît, dans cette histoire, assez faible. Et il faudrait déjà s'entendre sur ce qu'on appelle djihadisme dans la zone.
Alors, juste un petit mot justement sur cette organisation État islamique dans le Grand Sahara, le IGS. Matteo Paxton, qui analyse donc quelqu'un qui analyse toutes les vidéos de l'État islamique dans tous les pays du monde, nous disait récemment dans les enjeux internationaux que cette organisation, l'État islamique au Grand Sahara, n'était pas du tout visible pendant longtemps dans la propagande de l'État islamique, sans doute pour des raisons aussi de communication, de connexion avec l'appareil central, mais que depuis quelque temps, et notamment depuis la chute de Bagdad, Baghouz en Syrie. On voit cette branche de plus en plus visible qui mène des opérations calquées, nous disait-il, sur celle du Nigeria, à tel point qu'on se demande aujourd'hui s'il n'y a pas une connexion physique entre les combattants du Nigeria et ceux de la branche sahélienne, ce qui était très inquiétant, disait-il, parce que si des cadres ou des instructeurs du Nigeria viennent épauler, former des gens au Sahel, forcément ça prend une autre dimension, ce conflit-là. Mais pour l'instant, vous dites, ce sont des groupes isolés les uns des autres.
Alors, le problème, c'est quand...
En tout cas, on ne peut pas le définir.
C'est quand une zone est, pendant des années, contrôlée à la fois par les groupes armés, un peu par l'État, un peu par des groupes armés non terroristes, eh bien, évidemment, au bout d'un moment, ces groupes se... finalement entrent en communication les uns avec les autres, et on a eu dans la zone parfois des coopérations entre l'État islamique et Al-Qaïda, par exemple, et ce qui n'était pas le cas au Moyen-Orient, où les deux organisations étaient plutôt rivales. Il faut préciser que dans cette zone on a deux branches de l'État islamique, puisqu'on a l'État islamique en Afrique de l'Ouest qui est une scission de Boko Haram et qui est installée donc sur le bassin du lac Tchad. Et puis on a cet État islamique au Grand Sahara. Alors beaucoup, disons, parlent comme vous le faites de connexion entre ces deux groupes. Alors il faudra avoir accès aux documents, disons des renseignements pour être vraiment sûr. Ce qu'on évoque aussi, c'est que il y a la possibilité que certains combattants viennent de plus loin, et notamment de Libye. Il y a des commentateurs au Niger qui s'interrogent sur certaines des dernières attaques qui ont eu lieu sur le territoire nigérien. Sont des attaques de grande envergure avec 100 ou 200 hommes de djihadistes qui attaquent une position défensive de l'armée nigérienne, des modèles d'attaque assez élaborés, et certains évoquent l'arrivée dans la zone de gens qui auraient combattu dans d'autres territoires. Alors c'est à vérifier, bien sûr, mais c'est quand même un questionnement qu'il faut avoir en tête.
Alain, Thiel, juste pour conclure, comment la question politique peut éventuellement régler celle du djihadisme? Vous évoquiez tout à l'heure les questions de gouvernance, notamment la question sociale. Est-ce que ces pays du Sahel, qui ont augmenté beaucoup leurs dépenses militaires et de sécurité ces dernières années, doivent aussi et peuvent surtout augmenter d'autres postes de dépenses comme le social? Et est-ce que ça peut régler, contribuer à régler les choses?
Oui, il y a plusieurs réformes de la gouvernance qui doivent être menées, mais ça, tout le monde le sait depuis très longtemps. Et ce qui est, il faut que déjà les élites étatiques soient moins corrompues. Il faut savoir qu'aujourd'hui encore, on déplore la faiblesse des armées de la zone. Dans certains pays, on a des officiers supérieurs qui détournent les budgets des armées nationales. Donc, alors c'est pas la majorité des officiers supérieurs qui font ça, exact. Mais ça existe encore au moment même où leurs hommes se font tuer sur le terrain. Donc il y a un problème de corruption, d'État qui n'arrive pas à remplir ses services de base aux populations.
Merci beaucoup.
Et ça, si on n'arrive pas à régler ces problèmes-là, eh bien le problème militaire va continuer à s'étendre.
Merci beaucoup Alain Thiel, on verra ce que donne cette cellule anticorruption mise en place très récemment au Mali. Merci Alain Thiel d'avoir été avec nous ce matin, je vous souhaite une bonne journée.